Cinq enfants de l'hôpital de jour, du centre de psychothérapie et de rééducation de Senlis ont participé à des ateliers radio. Ils ont été encadrés par Jeanne Piani, institutrice spécialisée, Nicolas Robert, éducateur spécialisé, et Frédéric Gis, animatrice atelier radio de RVM. Nous vous proposons d'écouter leur émission.
RVM, Radio Valois-Mussien. 15 minutes des métiers qu'on aime avec Roger, Kenzo, Maëlys, Kylian et Berdy Nathan.
Attendez, pour les accompagnateurs, je vous donne ceci. Vous allez vous diriger sur votre gauche en direction du bâtiment bleu. Vous rentrez dans le hall accueil visiteur.
D'accord.
Dans le hall accueil visiteur, sur votre droite, il y a Mélanie. Elle va vous faire des badges et appeler la personne.
D'accord, très bien, merci beaucoup.
Yes. Bah, c'est parti.
Voilà, on vient vous voir surtout parce qu'on cherchait à interviewer un militaire. Et donc, nous avons appris que vous aviez été militaire dans une précédente mission, profession.
Carrière.
Donc, on a préparé quelques questions sur votre métier de militaire, ce qui n'empêche pas qu'après, on pourra vous poser des questions sur l'entreprise, sur votre métier actuel.
D'accord.
Vous êtes qui, monsieur ?
Bonjour, alors je suis Yvan Leboujon, je suis responsable du centre de formation de la société Poquelin. Nous sommes situés à Verberie. Je suis rentré chez Poquelin en 2008, après une carrière militaire donc, qui a duré 16 ans. C'était un changement de profession.
Quel âge avez-vous ?
Alors j'ai 46 ans.
C'est quand votre première carrière ?
Alors ma première carrière, j'étais militaire donc, au sein de l'armée de l'air. J'ai travaillé en tant qu'électronicien avion. J'ai fait toute ma carrière, on peut dire, sur la base aérienne de Creil. Oh. Maintenant, les avions sont partis, en fait. Donc, on conserve son nom de base aérienne, même s'il n'y a plus d'avions.
Et pourquoi ?
Je pense que ce sont des questions... je ne voudrais pas trop rentrer dans le sujet, mais ce sont des questions économiques, peut-être, ou de restructuration. Les avions ont été déplacés. Une partie, je sais, qu'ils sont sur Évreux. Il y a une partie qui s'est mise à Mont-de-Marsan. Et puis voilà. Après, je ne connais pas toute l'histoire parce que j'étais déjà parti, en fait, quand les avions sont partis.
Quels sont les avions de Creil ?
On peut dire qu'il y a eu deux sortes d'avions. Alors, c'est essentiellement des avions de transport. Et il y a eu également des hélicoptères pendant un moment. La chance qu'on avait à Creil, c'est de pouvoir à la fois toucher aux avions et aux hélicoptères. Il y a eu la permanence opérationnelle qui surveillait Paris, les avions de chasse. Donc c'était des avions en fait qui n'étaient pas directement basés à Creil, c'était des unités qui étaient déportées sur Creil pour faire la surveillance de l'espace aérien. J'ai pas eu l'occasion de travailler sur les avions de chasse. Ma partie, c'était vraiment la partie transport aérien.
Est-ce que vous avez fait des combats ?
Alors, je dirais pas participer activement au niveau des combats, puisque nous, on était essentiellement on partait en mission, soit pour appuyer des gens qui étaient basés au sol. On faisait beaucoup de missions d'évacuation sanitaire. On a été au contact des gens. En fait, on était essentiellement là pour aider, on va dire, les populations en place, faire du transport aussi au niveau des parachutistes. On se déployait quand il y avait besoin de déployer des forces. On pouvait très bien emmener des parachutistes et également de la surveillance militaire de territoire. C'est-à-dire qu'on surveillait au niveau de certains pays que les règles étaient bien respectées, que les frontières étaient bien respectées, et éventuellement s'il y avait du mouvement. Donc ça, c'était plutôt en coordination avec d'autres armées. On ne travaillait pas qu'avec l'armée française, mais c'était un peu de l'international. On a fait des évacuations sanitaires, de la surveillance de territoire, du transport de matériel aussi, beaucoup. Moi, mon but principal, c'est essentiellement d'assurer la réparation des avions, le maintien fonctionnel des avions, quand on était en mission.
Ok.
Comment on devient militaire ?
Alors, on devient militaire, on peut dire que c'est, avant tout, c'est le choix, c'est le choix d'une vie. Ça peut être le choix d'un métier, mais moi, je dirais que c'est plutôt une vocation. C'était une idée que j'avais depuis que j'étais petit. C'était aussi c'est une bonne école aussi, je pense. Mais je pense que c'est surtout une volonté de le devenir. Il faut se dire que ce n'est pas un métier qui est comme les autres. C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement, qui demande des sacrifices aussi parfois. Mais c'est un métier qui est super enrichissant, on apprend beaucoup de choses. Je veux dire que c'est vraiment une volonté et une envie. Au niveau scolaire, il y avait différents cursus. Alors maintenant, je pense que ça a dû changer. À l'époque, on avait le cursus en fait, où on pouvait rentrer dans l'armée sans avoir le bac, c'était une possibilité, mais il fallait passer un concours. De toute façon, dans tous les cas, il faut passer un concours, mais l'armée était une bonne école, puisqu'elle obligeait de toute façon les jeunes qui rentraient sans le bac à sortir avec le bac. C'était une condition sine qua non pour pouvoir rester dans l'armée. Personnellement, moi, j'ai passé mon bac. La petite histoire, c'est que j'ai passé tous les concours que je pouvais, c'est-à-dire j'ai passé l'armée de terre, la gendarmerie, l'armée de l'air et la marine. J'ai eu les quatre. Alors, j'ai peut-être un coup de chance, je ne sais pas. Finalement, mon choix s'est porté vers l'armée de l'air. On a commencé par une école militaire qui nous apprend toutes les règles de base du militaire, c'est-à-dire la notion de groupe est très importante, la notion de travailler avec les autres, d'aller dans le même sens que les autres, de s'entraider. J'ai toujours tendance à dire que l'armée, c'était avant tout une grande famille, avant d'être un métier. On nous apprend ça, et puis après, une fois qu'on a fini notre école militaire, donc si tout s'est bien passé, qu'on était accepté, on partait en école plus technique, plus théorique, j'allais dire. Et là, on fait des études dans une école standard, hein, c'est-à-dire on fait des études post-bac, c'est-à-dire des études, pour ma part, c'était de l'électronique, de la mécanique, des choses comme ça, mais vraiment dédiées sur la partie aéronautique. L'aéronautique, il y a quelques écoles en France. Je crois qu'il y en a une, notamment du côté de Saint-Maximin, du côté de Creil, par là-haut. On avait nos études techniques qui concernaient le métier qu'on allait faire, le métier de mécanicien ou d'électronicien avion, mais également, on continue aussi la partie militaire. Tout au long du cursus scolaire, on nous rappelle qu'avant tout, on est des militaires.
Le métier militaire, il est risqué ?
C'est une question qui est très compliquée. Je dirais que c'est une question où il y a toujours un risque, de toute façon. Chaque métier a un risque, tout à fait. Mais quand on signe pour ce métier-là, de toute façon, on sait qu'il y aura un risque peut-être à un moment ou à un autre. On va se retrouver sur certaines zones où on n'a pas l'habitude d'être, forcément. Ce sont des zones où ce sont des pays qui sont plutôt en guerre. Avant tout, on reste militaire.
Et est-ce que parfois il y a des filles dans le métier militaire ?
À l'époque où je suis entré dans l'armée, c'était encore assez restreint, je dois dire. Ça commençait. On a vu arriver quelques femmes qui étaient notamment pilotes, hein, pilotes sur avion. Ça commençait à se développer. C'est une très bonne chose. Pourquoi on ferait une différence entre un pilote femme et un pilote homme ? Il y a de plus en plus de femmes qui rentrent et qui ont la vocation de rentrer dans l'armée. Donc l'armée a une mixité qui s'installe.
Pourquoi vous avez quitté votre métier ?
C'est une question qui est très difficile à répondre. Je l'ai quitté parce que pour moi, il était temps de le quitter. Il faut savoir que c'est un métier qui est très prenant sur la vie de famille aussi. Quand j'étais jeune, célibataire ou que j'étais pas encore bien fixé, il y avait aucun souci. Après, c'est un métier qui demande énormément de sacrifices au niveau de la famille, c'est-à-dire beaucoup de déplacements, puis ce ne sont pas des déplacements à courte durée, ce sont des déplacements qui peuvent durer parfois plusieurs mois, dans des pays qui ne sont pas spécialement touristiques. Je pense que c'était un moment de ma vie où je me suis dit, voilà comment je me vois, comment je vois évoluer ma famille, comment je vois évoluer mes enfants. Donc j'ai décidé de partir et j'ai eu la chance de retrouver un autre métier qui me plaît tout autant, même si c'est complètement différent et qui me permet de continuer à voyager. Donc l'avantage que l'on a, c'est qu'à la fois on peut être un grand voyageur au sein de l'armée et continuer à voyager dans sa vie après l'armée.
Et dans quel pays vous avez été ?
Essentiellement, j'allais dire les pays d'Afrique, les pays du Moyen-Orient. J'étais en Côte d'Ivoire, je suis allé au Gabon, je suis allé en Israël, en Égypte, dans le désert du Sinaï.
Ah, mon foyer, j'ai une chambre, et elle est remplie de trucs de l'armée, donc du coup, j'aime bien ces trucs-là.
Et donc, tu voudrais en faire ton métier par la suite ?
Non, j'aime bien comme ça, c'est une passion.
Ah, c'est une passion. Voilà. Ah non, mais pourquoi pas ? Il y a des gens qui sont passionnés par l'aéronautique, qui ne sont pas forcément pilotes.
Ma chambre, il n'y a que de l'armée, il n'y a que ça dans ma chambre.
D'accord, donc là, c'est plus qu'une passion, c'est presque une vocation.
Mais écoute, vous avez eu plusieurs grades ?
Je suis parti au moment où je passais adjudant, en fait.
Mais est-ce que le métier, il est conseillé aux jeunes ? Des jeunes comme nous ?
Alors, ben bien sûr, moi, je ne vais pas dire que c'est un métier qu'on peut pas conseiller. C'est un métier, mais avant tout, il faut bien se dire que c'est un métier qui est très particulier. Encore une fois, c'est une vocation. Hein. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Oui, c'est un métier que je conseillerais parce que c'est un métier qui apprend beaucoup de choses, qui apprend la valeur des gens, on rencontre énormément de personnes qui peuvent venir de différents horizons. C'est une grande famille, encore une fois. Moi, franchement, c'est de très belles années. J'ai toujours des contacts avec mes anciens collègues de l'armée. On reste toujours un peu militaire dans sa tête, quoi qu'il arrive. Même si on passe, j'allais dire, de l'autre côté, pas de l'autre côté de la barrière, parce qu'il n'y a pas de barrière, mais si on change de profession, il faut savoir que Après l'armée, il y a une vie, c'est-à-dire que c'est une très bonne école. Techniquement, c'est une école qui est assez pointue. On apprend énormément de choses, on peut apprendre énormément de métiers. Si on veut, on peut rester dans l'armée, comme on peut la quitter. Je pense sincèrement qu'un ancien militaire, pour moi, n'a pas trop de mal à retrouver du travail.
En fait, à la télé, il y a des pubs qui passent. Est-ce que vous aimez bien ?
Les publicités sur... Ouais. Oui, ouais, effectivement, elles sont très bien faites. Ce sont des publicités qui sont pleines d'action.
Pour engager, pour faire tout.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont des campagnes pour que les jeunes prennent conscience qu'on a besoin de militaires, qu'il faut s'engager. Mais à la fois, ces publicités sont bien faites parce qu'elles montrent aussi l'esprit de groupe au niveau de l'armée, les différents métiers qu'on peut y faire. Mais également, ça montre aussi un petit peu que quand on fait ce métier, c'est aussi un métier où il y a beaucoup d'action, mais c'est un métier qui est aussi un petit peu à risque.
Est-ce qu'on peut accéder à l'armée sans diplôme ?
Je ne sais pas actuellement où ça en est, mais effectivement, à l'époque, c'était sur concours. C'est sur concours. Le mieux, c'est de se rapprocher des organismes de recrutement au niveau de l'armée pour savoir ce qu'il est possible de faire. Mais au niveau de l'armée, je pense qu'il y a plusieurs possibilités pour accéder au métier de militaire. Il y a plusieurs spécialisations, il y a tout un tas de spécialisations. Alors bien sûr, toutes les spécialisations ne demandent pas le même niveau d'entrée. Mais l'armée, de toute façon, se charge de former les gens à l'issue de leur engagement.
Est-ce que parfois, dans l'armée, il y a des boulangers-pâtissiers ?
Alors ça, c'est une bonne question. Alors je pense qu'il doit y en avoir. Il doit y en avoir notamment dans la marine.
Sur les grands bateaux du genre paquebot.
Sur les bateaux. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire à 100%. Et en tout cas, c'est sûr que les métiers de bouche dans l'armée de l'air sont quand même assez développés parce qu'on a besoin de se restaurer aussi. Donc c'est vrai qu'il y a toute une organisation derrière. Je me souviens que sur la base aérienne de Creil, on avait vraiment ce qu'on appelait un très grand mess. On se réunit pour manger, une énorme cantine, voilà. Il y avait énormément de métiers qui étaient représentés, il y avait énormément de gens qui travaillaient derrière, c'est-à-dire qu'à la fois qui cuisinaient, il y avait de la manutention, il y avait de la gestion. Et après, le métier de boulanger en tant que tel, je peux pas l'assurer à 100%.
Est-ce qu'il y a d'autres structures militaires de Creil ?
Autour de Creil, j'allais dire, les premières structures militaires peut-être que l'on peut rencontrer, c'est la gendarmerie, même si maintenant ils ont un statut un peu plus particulier, ça, ce sont les plus proches. Il y a aussi des bureaux, il faut se dire qu'il n'y a pas forcément que des bases aériennes, que des bateaux. Il y a aussi des gens qui travaillent dans les bureaux, notamment au niveau des process de recrutement. Des bureaux qui sont situés à Paris, dans le nord, et puis dans l'est. Il y a beaucoup de bases qui ont fermé. Honnêtement, j'ai pas suivi spécialement les restructurations.
C'était quoi votre arme préférée ?
Alors, mon arme préférée, on peut pas dire que j'ai d'arme préférée, puisque l'utilisation d'une arme, c'est quand même quelque chose qui est pas forcément appréciable, j'allais dire. À l'époque, on utilisait le FAMAS ou le pistolet automatique, mais c'est plutôt un fusil mitrailleur.
Oui, ce qu'ils ont, l'armée de terre, tout ça. Moi, en fait, quand je vais à Paris, j'en vois beaucoup vers la Tour Eiffel, les gens comme ça.
Voilà, c'est ça, c'est pour Vigipirate, l'organisation Vigipirate.
Dans les écoles, dans les bâtiments, dans les...
Même en vacances, on voit de plus en plus, même dans les parcs d'attractions. Après, une arme très efficace qui existe, ça s'appelle tout simplement l'avion. Je ne veux pas parler d'armes préférées, je veux parler d'armes.
Oui. Est-ce que vous avez déjà lancé un missile ou...
Personnellement, je n'ai pas lancé de missile parce que je n'étais pas pilote, je m'occupais plutôt de l'organisation de...
De réparer tout ça, non ?
De réparer des avions. Moi, j'étais plutôt dans le transport aérien, donc encore une fois, je n'ai pas touché à l'armement. Nous, c'était plutôt l'équipement des avions de transport.
Et les hélicoptères, ils sont beaux ?
Ah ben, un hélicoptère, c'est toujours magnifique. Hein. Le bruit de l'hélicoptère est quand même assez particulier. Surtout que ce qui est amusant, pour la petite anecdote, c'est que quand on travaille sur des hélicoptères, on arrive à reconnaître un petit peu le bruit des différents hélicoptères. Et je me souviens du bruit particulier, c'était quand on était dans le désert du Sinaï. Ils avaient les vieux hélicoptères qu'on voyait dans les films sur la guerre du Vietnam et qui avaient vraiment le bruit particulier qui faisait flap, 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 flap.
Ah oui, les gens sur l'hélicoptère là
Tout à fait. Alors je pense qu'ils les utilisent plus. Maintenant, ils doivent être à la retraite. Mais je me souviens toujours que j'avais été surpris les premières fois où je les ai vus revenir et je me disais, on avait l'impression d'être dans
un film. Ah oui, dans les films, comme par exemple, il y a un film que je connais. Oui, King Kong, voilà.
King Kong. Ah oui, d'accord. Là, on est dans une autre catégorie de films alors. Les hélicoptères sont beaux, si c'est pour répondre, oui. L'aviation, l'aéronautique, tout est beau dans l'aéronautique.
Comment on fait pour passer un diplôme par rapport à tout ce qui est hélicoptère, avion
Diplôme d'hélicoptère, c'est pas forcément dans l'armée, pour devenir pilote d'hélicoptère, pour devenir pilote d'avion. Ça peut commencer par un aéroclub, tout simplement. Après, si c'est plus la partie technique, il y a des écoles aussi. Il n'y a pas que des écoles militaires, il y a quelques écoles qui existent au niveau civil, notamment pour travailler sur les avions de ligne, parce qu'il n'y a pas que les avions d'armée.
Est-ce que la télé, vous avez déjà regardé le 14 juillet ?
Oui, c'est quelque chose que je regarde encore, en fait. C'est vrai que je m'amuse parce que je revois, j'essaie de voir, de reconnaître des fois des collègues qui défilent, même si malheureusement, je crois qu'il n'y reste plus beaucoup. Par contre, j'aime bien retrouver mon ancienne école ou regarder les différents régiments qui défilent.
Et c'est quelle école ?
C'était l'école de Rochefort, en fait. L'école de Rochefort qui a été regroupée après avec la Marine nationale. Donc, en fait, les gens qui travaillent dans l'aéronautique, que ce soit au niveau marine ou au niveau armée de l'air, maintenant, c'est une école qui est regroupée sur la base aérienne de Rochefort.
C'est quoi les noms des grades ?
Ça dépend du corps de l'armée. Les grades sont différents, suivant si c'est la marine, si c'est l'armée de l'air, si c'est l'armée de terre. L'armée de l'air, le premier galon, qui n'est pas vraiment un galon, on appelle les aviateurs. Après, on devient caporal-chef, sergent-chef, adjudant-chef. Après, il y a l'école des majors. Après, le grade d'adjudant-chef, on quitte les sous-officiers. On a un grade un peu particulier qui s'appelle major, qui est entre les officiers et les sous-officiers. Et puis après, au niveau des officiers, il y a sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, général, et puis après, suivant le nombre d'étoiles, dans différents généraux.
Où sont les ministères de l'armée ?
Alors en fait, le ministère de l'armée, c'est le ministère de la Défense, hein, tout simplement. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la région parisienne, dans Paris. Donc à l'époque, je me souviens, il y avait Ballard, qui était là où on trouvait pas mal de gens qui dirigeaient et qui commandaient au niveau des armées. Je pense que ça doit toujours être là, d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a des recherches sur des modes de propulsion autres que les hydrocarbures, enfin que le pétrole ?
Pour l'instant, le plus efficace, j'allais dire, c'était le kérosène. Hein. C'était toujours ce qu'on utilisait, ce qui est toujours utilisé, même que ce soit dans l'armée ou c'est les avions de ligne. Mmh. La prochaine étape serait, d'après les recherches, les avions électriques. Pour l'instant, je pense que l'autonomie ne peut pas le faire. Peut-être au niveau civil, ce sera possible. Après, au niveau militaire, c'est un petit peu particulier parce que ce sont des avions qui vont quand même, qui doivent être projetés très rapidement, très loin, avec une certaine distance. Je pense que pour l'instant, les recherches ne sont pas suffisamment avancées pour équiper les avions ou hélicoptères de l'armée de l'air, mais pourquoi pas.
Il y a un rapport avec votre métier de maintenant et celui que vous faisiez à l'armée ?
Alors, mon métier actuel et celui que je faisais à l'armée, en fait, oui, c'est la technique. Je suis dans une entreprise qui a énormément de recherche et développement. J'ai fini ma carrière en tant qu'instructeur dans l'armée de l'air, donc j'avais une expérience de formation. Je suis rentré chez Poquelin, c'était pas forcément mon domaine technique. On m'a fait confiance parce que l'école militaire est quand même intéressante à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elle permet de se remettre en question à un moment donné et de toujours avoir une envie d'apprendre, notamment au niveau technique. J'ai commencé en tant que formateur dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. J'ai continué dans la technique, puis je suis devenu responsable d'une partie du centre du SAV, en fait. Et puis maintenant, je suis responsable du centre de formation de Poquelin. Donc c'est une évolution. Poquelin m'a permis d'avoir une évolution. Mais encore une fois, je pense que si l'école militaire n'avait pas été là, j'aurais peut-être pas eu forcément les chances de pouvoir rentrer et faire ce métier actuel.
Est-ce que les uniformes, ils sont lourds ?
Non, on peut pas dire que les uniformes soient lourds. On est plus sur les vieux uniformes. En plus, j'ai vu, depuis que je suis parti, ils ont fait encore énormément de progrès au niveau des uniformes. Les uniformes, pour moi, sont de plus en plus légers, de plus en plus confortables. Je pense qu'il faut plus avoir en tête la vieille chemise qui grattait avec le col qui rendait le cou tout rouge. Ça, c'est fini. Les uniformes ont évolué. Moi, j'ai pas été vraiment confronté à ça, mais je pense qu'en théâtre d'opération, les uniformes doivent être un peu plus lourds. Mais ils ont quand même fait beaucoup de progrès, que ça soit au niveau de l'habillement, au niveau des équipements, même au niveau du FAMAS. Moi, je me souviens, quand on portait le FAMAS, c'était quand même, c'était devenu relativement léger par rapport à ce qui se faisait avant. Quand j'ai quitté l'armée, j'avais une période sur laquelle je pouvais être rappelé pendant un certain nombre d'années, qui maintenant est révolue, on va dire. Et on m'a laissé mes habits militaires, mes rangers. J'ai toujours mon casque, qui est bien conservé, il est bien au chaud. Donc je le ressortirai jamais.
On espère.
J'espère bien, oui. Je le donnerai à mon fils, mon dernier fils en souvenir.
C'était les métiers qu'on aime, un ancien militaire à la retraite, jeune retraité, on peut dire, parce qu'il est un peu jeune.
Voilà, ça a été pour tous, c'était 93.7, Radio Valois-Mussien, la radio qui vous écoute. On vous souhaite une belle journée.
Merci à vous.